Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une sport, la RDC rencontre la Guinée aujourd'hui à 17h de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il s'agit du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'enjeu de ce match est avant tout de glaner les 3 points pour bien se positionner au classement partiel. Bonne nouvelle pour les habitants de Niakoundé Centre en Ituri. Ici, la situation sécuritaire s'améliore progressivement depuis plusieurs mois. C'est le résultat des dialogues initiés par les leaders communautaires. Ces derniers ont convaincu les jeunes à risque de cesser avec la violence. Et puis, l'invité de ce midi, Léonie Kandolo, ministre du Genre. Elle nous parle des frais administratifs fixés par les communes pour la célébration des mariages civils, frais jugés très exorbitants. Madame, Messieurs, bonjour. Les Léopards de la RDC jouent ce vendredi contre le Sili National de la Guinée au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ce sera au coup de 17h heure locale. Ce match de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 mettra aux prises deux équipes qui se sont croisées lors de la récente phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations jouée en Côte d'Ivoire. L'enjeu de ce match avec vous, Jean Ganduka Bongo.
L'enjeu de ce match est sans nul doute de glaner les 3 points pour bien se positionner au classement partiel. L'équipe qui gagnera sera première car la Tanzanie et l'Éthiopie, autres membres du groupe, se sont séparés sur un nul blanc. Ces dernières années, la RDC et la Guinée se sont affrontées à 6 reprises. Les Léopards ont gagné 4 fois, perdu 1 fois et ont fait match nul 1 fois. Comme on le voit sur papier, la RDC part avec les faveurs de pronostic. Si en conférence de presse d'avant-match, les deux sélectionneurs se sont voués un profond respect, mais sur le terrain, les Guinéens pourraient être revanchard, car lors de la récente CAN jouée en Côte d'Ivoire, ils avaient été éliminés par la RDC en quart de finale. Les Congolais, pour leur part, voudraient consolider leur bonne dynamique imprimée depuis la dernière CAN. Donc, les deux équipes ont des comptes à se rendre. Et la plupart des louchois rencontrés se sont montrés sereins quant à l'issue du match. Mais d'autres jouent à la prudence, car dans un match de football, indique-t-il, tout est possible et jouer à domicile n'est pas forcément un atout. Les Gabonais avaient prouvé le contraire aux Congolais au stade de Martyrs à Kinshasa. Et les Congolais en avaient fait de même à Franceville, au Gabon. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, dans le territoire d'Irumou en Ituri, la situation sécuritaire s'améliore progressivement depuis plusieurs mois à Niakoundé Centre et c'est dans la chefferie des Andisoma. C'est à la suite des dialogues communautaires initiés par les leaders communautaires. Ces derniers ont convaincu les jeunes à risque de cesser avec la violence. Les notables saluent l'initiative du gouvernement provincial d'encourager les anciens miliciens à s'élancer dans l'agriculture pour leur prise en charge. Ezekiel Mouzalia a visité ce centre. Voici son reportage.
La vie a repris à Niakoundé Centre, localité située à 45 km sud de la ville de Bounia, dans le territoire d'Irumou. À l'entrée de la cité, les stigmates des opérations militaires lancées par les FARDC dans la zone sont encore visibles. Habitations, boutiques et maisons de commerce incendiées par des miliciens nous accompagnent le long de la route. Des infrastructures abandonnées par leurs propriétaires qui avaient fui le milieu. Selon des notables du milieu, cette situation est la résultante des efforts du gouvernement qui ont abouti à la signature d'actes de cessation des hostilités avec le groupe armé FPIC. Jean-Pierre Yoganzabo, l'un d'eux, indique qu'à ce jour, 53 villages sont de nouveau peuplés de leurs habitants, ce qui a favorisé la relance de l'agriculture. Certains jeunes gagnent leur pain quotidien, ce qui a permis la diminution des violences communautaires, ajoute le président de la société civile. Cette structure citoyenne demande au gouvernement d'accélérer le programme de DDRCS pour la prise en charge des jeunes qui détiennent encore les armes dans la région. Des retours de Niakoundé, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, les décisions des filles, un programme de Save the Children transforme la vie de plus de 100 jeunes filles déplacées du site de Rusayo dans le territoire de Niragongo. Lancé en octobre 2023, ce projet qui s'est clôturé mercredi était destiné à offrir aux jeunes filles les compétences nécessaires pour leur autonomisation financière. Exécuté par l'ONG Umoja in Action, ce projet propose des formations afin d'outiller les dites jeunes filles en compétences diverses dans la couture, la pâtisserie, la savonnerie, pour ne citer que celle-là. Denise Loukesso, reportage.
Au total, 120 jeunes filles de 10 à 19 ans du site de Roussayo ont appris durant une année environ divers métiers à travers une formation qui vise à leur inculquer l'esprit d'initiative et de résilience. La fabrication des savons liquides, la pâtisserie, les tissages des paniers artisanaux et la couture offrent une chance à ces jeunes filles de se prendre en charge dans un environnement où l'assistance humanitaire peut éventuellement manquer. Myriam Kavira et Abigail Mourassa sont des apprenantes.
C'est Save the Children qui nous a appris divers métiers pour que nous ayons confiance en nous-mêmes et que nous puissions nous prendre en charge. Parce qu'ici, beaucoup de filles se livrent aux soldats pour leur survie, mais nous, nous avons choisi suivre cette formation qui va nous aider pour notre avenir. Je me sous-estimais parce que je suis une fille déplacée, mais grâce à ces projets, décision des filles, je peux tout faire maintenant. Je rêve de devenir une grande couturière. Cette formation va m'aider à les concrétiser. Je suis aujourd'hui capable de coudre.
Malgré leur situation en tant que personnes déplacées, ces jeunes filles restent déterminées à se réapproprier leur destin et à se projeter dans un avenir à travers lequel elles pourront retrouver leur dignité. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Santé. Plus de 80 000 enfants de 6 à 10 mois ont été vaccinés contre la rougeole par MSF dans l'ex-Grande Orientale. Cette organisation médicale l'a révélé hier à Kisangani au cours d'un point de presse consacré à la présentation de ses activités entre juin et août 2024. La tâche n'a pas été facile à cause des nombreux défis opérationnels selon le coordonnateur de Médecins sans frontières. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
81 928 enfants de 6 mois à 10 ans ont été vaccinés dans les zones de santé de la Tchopo et de Banadia. Plus de 5 000 autres, âgés de 6 à 23 mois et 790 femmes ont été récupérées en PEV ou vaccination de routine dans les mêmes entités sanitaires. Selon Boubacar Mbalo, coordonnateur de MSF pour la réponse d'urgence dans l'ex-Grande Orientale, ces interventions sont couplées au dépistage et à la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aiguë et sévère. À ce sujet, au moins 371 enfants qui en souffrent dans les zones de santé de Banalia et de la Tchopo ont bénéficié des soins appropriés. Le coordonnateur de MSF souligne que ces interventions connaissent une certaine particularité.
Aujourd'hui, c'est qu'on associe la prévention, notamment le renforcement de la PEV de routine dans nos interventions contre la rougeole. Donc, je pense que ça, c'est aussi permettra de renforcer l'immunité des enfants contre cette épidémie qui était aussi préoccupante dans la province de la Tchopo.
Par ailleurs, concernant l'épidémie de Mpox, Boubacar Mbalo affirme que MSF a contribué en médicaments à la prison centrale de Kisangani et au centre de traitement de cette épidémie. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous au Maniema. Le gouverneur de province clôture sa mission d'itinérance à l'intérieur de la province après le territoire de Pangui. Moussa Kabouankoubi Moïse est arrivé dans le territoire de Kailo le mardi. Le but de sa tournée est de lui permettre de se rendre compte des conditions de vie de la population et les conditions de travail des administratifs, dit-il. Il s'agit aussi de se conformer à la directive du chef de l'État qui veut que les gouverneurs des provinces passent plus de temps sur terrain au bureau. Florence Kizalunga fait partie de la mission. Voici son reportage.
Si dans le territoire de Pangui, la population réclame l'eau, la réhabilitation, la construction des écoles et des routes, ainsi que les soins de santé de qualité, celle de Kailo n'en demande pas moins. Dans cette partie du Maniema, les routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé, au point que ceci ne facilite pas les déplacements des populations avec leurs biens, surtout les produits des champs. En plus d'être dans le noir, les structures sanitaires éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement. Le personnel est démotivé, car rester sans prime ni salaire depuis de longs mois. Les hôpitaux manquent de médicaments pour une bonne prise en charge de malades. Dans les deux territoires, la population manque de sources d'eau potable aménagées et en grande quantité. La vie est extrêmement chère car les habitants se donnent plus aux activités minières qu'à l'agriculture. S'adressant au gouverneur, elle sollicite son implication pour la sortie du gouffre. L'autorité provinciale la rassure de sa disponibilité avec tout son gouvernement de travailler pour essayer de relever le niveau de vie de la province. De retour de Kailo, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En politique, parlons de cette crise décantée à l'UDPS. Les deux partis antagonistes menés par Augustin Kabouya, secrétaire général, et Deo Bizibou, secrétaire général intérimaire, proclamé par un groupe des membres, ont fumé le calumet de la paix pour favoriser l'unité au sein de leur parti. Les deux franges ont aplani leurs divergences à l'issue d'une réunion tenue hier à la résidence de feu Étienne Tshisekedi, en présence de la veuve Marthe Kassalou, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, et de quelques membres de la présidence du parti. Du coup, il n'y aura pas de passage en force le samedi 7 septembre au siège du parti à la 11e rue Limété. Les deux partis ont appelé tous les combattants à soutenir le pouvoir de l'UDPS qu'incarne l'autorité de référence Félix-Antoine Tshisekedi. On écoute tour à tour Augustin Kabouya et Deo Bizibou au micro de Jacques-Yves Molima.
À ce qui concerne la date du 7 septembre, je demande à tous les combattants de ne pas faire le déplacement vers la permanence du parti. Nous sommes une famille, Union pour la démocratie et le progrès social. Je peux vous rassurer, ce que nous avons connu pendant des mois, en tant que responsable, je peux qualifier ça des incidents du parcours. Et ce qui est plus important, c'est de s'arranger derrière notre haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est à lui seul qui incarne le leadership, qui donne des orientations que nous autres, nous sommes obligés de suivre.
Je dis merci à notre maman pour tous les conseils. Nous disons aussi merci à notre autorité de référence pour tous ces conseils. Et le message, c'est de dire que nous intervenons pour dire à tous les combattants de l'UDPS que ce qui devait être prévu le samedi ici n'aura plus lieu. Ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que nous devons suivre les conseils. Dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille.
Direction le Congo central. L'Institut technique professionnel situé non loin de la gare de Lufutoto, secteur de Kwilungongo, dans le territoire de Mbanzangungu, a des difficultés pour accueillir ses plus de 200 élèves en cette période de la rentrée scolaire. En cause, le sinistre qui a frappé cet établissement lors d'une pluie accompagnée d'un vent violent le 18 mars dernier. Samuel Lusakumunu, préfet de cette école, lance ici un SOS en direction des autorités et des bonnes volontés pour un appui financier ou matériel pouvant permettre la réhabilitation de cet établissement d'enseignement technique. On écoute le préfet Samuel Lusakumunu dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambu.
Cette école, TTP Lufutoto, c'est une école technique professionnelle qui a été sinistrée lors d'une pluie qui s'est abattue et accompagnée d'un vent violent qui a emporté des toitures de nos deux bâtiments et un mur de nos bâtiments écroulés. Les bancs qui se trouvaient dans la salle de classe ont été fracassés. Des toitures de nos blocs de toilettes ont été aussi emportées. Nous avons lancé un SOS aux autorités et aux gens de bonne foi, mais depuis ce temps-là jusqu'à présent, nous n'avons pas été sinistrés. Nous avons bénéficié de l'exonération des frais des différents bureaux des autorités sous-provinciales et provinciales qui nous ont permis de recouvrir que les bureaux et une salle de classe. Il nous reste trois salles de classe et un bâtiment qui est en état de délabrement avancé, la toiture, même la charpente, y compris les murs. Pendant qu'on s'apprêtait à reprendre les cours, il a plu et les salles sont encore impraticables. Donc nous sollicitons l'appui des autorités, l'appui des gens de bonne foi qui peuvent aider la communauté de cette agglomération de Lufutoto.
Merci de nous écouter à Bénéville. Ici, nous apprenons que la population du quartier de Malépé dit ne plus supporter la lenteur d'exécution des travaux de modernisation de la route principale dénommée Avenue Joseph Kabila. Ces travaux ne devraient durer que 3 mois. Ils sont à l'arrêt depuis 8 mois maintenant. Conséquence, plusieurs activités économiques sont aussi à l'arrêt autour de ces axes principaux du quartier de Malépé. L'entreprise en charge des travaux parle des problèmes techniques qui seraient en voie d'être décantés. Marc Marof Fimbossi est rendu au reportage.
Long d'environ 1 kilomètre, les travaux de modernisation de l'axe principal de la route Malépé qui donne sur le boulevard Nyamwisi sont à l'arrêt. Du coup, les activités socio-économiques qui se déroulaient au bord de cette route sont aussi perturbées. Certains commerçants se sont même déplacés vers d'autres avenues. Mais ici, une dizaine d'avenues situées le long de cet axe principal sont également inaccessibles à l'absence des canaux de canalisation des eaux de pluie. Les habitants sont obligés de faire des longs contours en véhicule ou moto pour atteindre leur domicile. Cet habitant que nous avons rencontré plaide pour l'accélération des travaux.
Concernant l'évolution des travaux de SSV, nous traversons des difficultés pour nos activités économiques, car les travaux évoluent avec une lenteur.
Beaucoup ont perdu leur fonds de commerce à cause de cette situation, indiquent ces jeunes entrepreneurs pour qui les clients ont du mal à les atteindre.
Nous souhaitons que le gouvernement renforce l'exécution de ces travaux, car une fois ces travaux s'achèveront, nous aurons une bonne clientèle.
Contactez les responsables techniques de l'entreprise SSV en charge de la modernisation de cet axe routier parle des problèmes techniques et des financements. Toutefois, il rassure que les démarches sont à cours et les travaux vont se poursuivre. Signalons que les travaux de modernisation de la route principale du quartier Malepe avaient été lancés à grande pompe le 7 février 2024. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le choléra a provoqué une augmentation dramatique des décès en 2023 avec plus de 4000 morts, soit une hausse de 71% par rapport à 2022. Ceci ressort des récentes données de l'OMS. Les infections ont également progressé de 13%, affectant 45 pays dans le monde. L'Afrique a été particulièrement frappée avec une augmentation de 125% des cas signalés. Les régions les plus touchées sont celles où l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement est insuffisant, indique l'OMS.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la ministre du Genre, Léonie Kandolo. Elle estime que les frais administratifs fixés par les communes pour la célébration des mariages civils sont très exorbitants. Ces frais s'élèvent entre 300 et 500 dollars américains. Elle l'a dit lors de la 7e édition du Forum des chefs de division et des ministres provinciaux du genre à Matadi. Léonie Kandolo répond aux questions de Karine Topéridassi.
Léonie Kandolo, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a organisé la 7e édition du Forum des ministres provinciaux du genre et des chefs de division. Quelles sont les attentes de votre ministère par rapport à ces assises?
La première attente, je dirais qu'elle est d'abord humaine parce que le ministère a des représentations dans toutes les provinces, des ministres provinciaux et des chefs de division. Donc il est important, si on veut travailler ensemble pour aller de l'avant, d'abord de se connaître. Ensuite, c'est de partager la mission que nous avons par rapport à la vision du chef de l'État à travers l'ordre de mission qui nous est assigné par la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, chef du gouvernement. Et nos principales missions sont d'abord, c'est la promotion du genre et la protection des familles et des enfants et des droits des enfants.
Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelles sont les avancées enregistrées issus des recommandations des 6 premiers forums?
D'abord, dans les 6 premiers forums, il faut toujours parler qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a l'autonomisation des femmes. Par rapport à l'autonomisation de la femme, on peut dire qu'on a eu des avancées visibles, notamment la construction de 3 maisons de la femme, hein, deux au Congo central et une au Kasaï oriental, la réhabilitation aussi de plusieurs maison de la femme. Pour la lutte contre les violences basées sur le genre, on a eu comme avancée que quasiment toutes les provinces ont fait des édits pour protéger le travail des enfants dans les mines ou dans d'autres secteurs. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Nous avons aussi la participation politique de la femme. On a vu que ça, le plaidoyer a porté, puisque nous avons maintenant un gouvernement avec 32% de femmes. Nous avons une augmentation des femmes aussi, tant au Parlement, et maintenant même au bureau du Parlement, vous avez quasiment la parité. Donc vous voyez que tous ces plaidoyers portent quand même des fruits. Par rapport à la masculinité positive aussi, il y a eu énormément d'avancées.
Vous avez annoncé que désormais, les hommes qui vont se démarquer dans la masculinité positive seraient primés. Est-ce que vous avez des mécanismes de suivi sur le terrain? Parce que le Congo est vaste, comment dénicher les hommes genrés et qui luttent contre les stéréotypes?
Il faut avoir des références quand on veut faire un travail. Nous allons commencer par les institutions. Nous allons aller ensuite dans les entreprises. Et puis, nous allons descendre au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre au hasard. La quantité de femmes qui sont dans l'entreprise et maintenant les qualifications qu'elles ont. Parce que ce n'est pas spécialement avoir beaucoup de femmes qui est important, mais il faut aussi que ces femmes, par exemple, soient des directeurs et des postes de décision. Et ça va être la même chose pour le gouvernement et pour toutes les institutions. Nous allons commencer par les institutions, parce que c'est elles qui doivent monter l'exemple.
Vous avez un tout petit peu dévoilé votre vision Et vous avez fait allusion à des pourparlers pour l'annulation des frais de célébration des mariages civils. Quand estimez-vous que cette décision sera effective?
C'est un processus qu'on veut mettre en place parce que quelque part, dans beaucoup de communes, notamment à Kinshasa et dans les grandes villes, les montants qu'on demande administratifs sont beaucoup trop élevés. Si on veut que les gens se marient, vous ne pouvez pas leur demander 300, 400, 500 dollars de frais administratifs. L'annulation, c'est peut-être très fort, mais au moins une uniformisation des frais dans un premier temps, parce que le mariage civil est un mariage très important. Au Congo, nous avons trois formes de mariage. Nous avons le mariage coutumier, qui est un mariage entre les deux familles. Nous avons un mariage civil, qui est le mariage pour moi le plus important, qui est entre un homme, une femme et l'État. Ce mariage-là ne peut pas avoir lieu sans le mariage coutumier, donc sans la dot, sur laquelle aussi nous allons travailler un petit peu. Et ensuite, vous avez le mariage religieux, qui lui ne peut pas avoir lieu si les deux autres n'ont pas eu lieu. L'importance du mariage civil, c'est que vous protégez la femme et les enfants en cas de décès, en cas d'héritage, en cas de divorce. Il faut vraiment que ce mariage ait eu lieu pour que la femme et les enfants puissent rentrer dans leurs droits.
Léonie Kandolo, je vous dis merci.
Merci à vous aussi.
Voilà, c'était là notre invitée, la ministre du Genre, qui répondait aux questions de Karine Topé-Ridassi depuis Matadi. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima-Aouta, Debs Vita, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.